Professeur Titus Hetzoa, bonjour.
Bonjour.
10 ans après votre libération, on vous sent de plus en plus engagé dans le combat politique. Est-ce qu'il y a chez vous la volonté de rattraper ces 17 années de temps perdu?
Rattraper peut-être, oui, mais surtout continuer ce que j'ai initié il y a 27 ans. Vous savez, 17 ans de prison plus 10 ans, ça fait 27, et j'ai retenu beaucoup de leçons. Donc, trois essentiels. La première, c'est ce pardon consolidé par la maîtrise des souvenirs horribles que j'ai vécus et qui m'a totalement et définitivement libéré de mes bourreaux. La deuxième, j'ai appris à relativiser, ce qui a simplifié énormément ma vie. Et enfin, la troisième leçon, c'est que toute vie est toujours une histoire inachevée. Quand il faut recommencer, il faut le faire avec un idéal toujours plus élevé. Voilà ce qui m'accompagne dans mes activités quotidiennes.
Vous qui avez connu 17 années dans un cachot de 8 mètres carrés, est-ce que vous avez toujours des relations épistolaires, notamment avec les personnalités politiques qui sont toujours en prison?
Oui, pas épistolaire, j'ai de leurs nouvelles et je ne cesse de les encourager parce que je sais ce que cela veut dire et surtout, beaucoup sont en prison pour leurs opinions. Donc, pour le Cameroun, après tant d'années, c'est une honte parce que je ne conçois pas qu'on puisse être privé de sa liberté tout simplement parce qu'on a une opinion différente de ceux qui sont au pouvoir. Donc, peut-être le moment venu, on continuera à faire tout ce qu'on peut pour qu'ils soient libérés.
Vous pensez à qui en particulier?
Je pense à tous ceux qui sont venus après moi. Ils sont nombreux. Bon, je vais donner quelques noms. Marafa, Mabara, il y a les Gilles Belinga, il y a Vamulke et bien d'autres.
Et les 41 militants du parti d'opposition MRC?
Oui, ça va dans la même logique parce que c'est des comportements absolument abjects. On ne comprend pas pourquoi ils sont là-bas et on risque de les oublier. Il faut qu'ils tiennent bon.
Parce que quand vous étiez en prison, vous aviez peur d'être oublié?
Oh, non seulement peur, j'y avais été oublié. Vous savez, 17 ans, dans des conditions terribles, c'est ça qui vous taraude. Vous n'existez plus. Et puis, vous avez le temps aussi de penser à vous-même, mais aussi pour les autres. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai continué à faire de la politique, parce que pour moi, la politique, c'est un instrument de service et non pas de jouissance, comme on le voit aujourd'hui dans notre pays.
Et est-ce que vous correspondez par courrier, peut-être, avec Marafa Hamidou Yaya, qui a été, comme vous, secrétaire général de la présidence et qui est en prison?
Non, c'est d'ailleurs dangereux, parce que si vous le faites, vous leur créez des difficultés, parce qu'ils sont vraiment reclus. On ne permet pas qu'ils aient un brin de liberté. Donc, il vaut mieux que ce soit, par exemple, comme nous sommes en train de le faire, ils vont écouter ce que j'ai dit, qu'ils sachent qu'on ne les oublie pas.
Beaucoup disent que la guerre des clans est de plus en plus féroce dans l'entourage du président Paul Biya. Qu'est-ce que vous en pensez?
De ce point de vue, je crois que ces clans ont été créés par lui-même. Et c'est des clans qui sont devenus des monstres. Et vraiment, ils ont pris une envergure qui effraie la chronique. Et on ne sait pas comment ça va se terminer, mais de toutes les façons, c'est des guerres. Qu'il y ait un vainqueur ou pas, de toutes les façons, ce n'est pas ça l'avenir du Cameroun.
Est-ce que l'assassinat du journaliste Martinez Zogo il y a un an est une conséquence de cette guerre des clans?
Mais bien sûr, non seulement c'est une conséquence, mais ça a relevé le non-sens de toutes ces bagarres, de toutes ces guerres inutiles pour soi-disant le pouvoir. De toutes les façons, le Cameroun reste hagard. Après ce qu'il y a eu, on ne sait pas toujours ce qui s'est passé. On tergiverse, on tourne autour du pot et la mémoire du défunt est salie parce que jusque-là, il n'a pas été enterré. La famille ne sait pas ce qui se passe. Bref, c'est un imbroglio qui n'est rien d'autre que le thermomètre de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui.
Les affiches de fausses candidatures qui apparaissent sur Internet, est-ce le signe aussi d'une guerre des clans de plus en plus féroce?
Mais bien sûr, ils ne s'épargnent pas. Alors la population assiste à ça. Elle ne sait quoi faire, quoi dire. On ne sait pas où on va. On tourne en rond. C'est toujours les mêmes. Je peux vous dire qu'au Cameroun, on est fatigué de vivre tout ça.
Lors de la présidentielle de l'an prochain, le président Biya aura 92 ans et pourtant ses partisans l'invitent à se représenter. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oh, c'est toujours les mêmes farces. C'est-à-dire que je crois que c'est encore, si ça se passe comme cela, une mascarade de plus puisqu'on a déjà vécu ça les années passées.
Vous pensez à 2018?
Tout à fait. Vous savez, 2018, tout ce qui a été promis, rien n'a été fait. Nous sommes là, les institutions sont bloquées. Vous avez la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Rien n'a été fait, bien au contraire. Sur cette guerre-là, qui nous taraude, on a plutôt privatisé la guerre et puis la mort se passe dans des conditions dramatiques des deux côtés. Donc, tout est en statu quo et le pays s'émeut.
Alors, dans les cercles du pouvoir, certains poussent Paul Biya à se représenter une énième fois, mais d'autres l'incitent à préparer son fils, Franck, pour lui succéder. Quel est, à votre avis, le scénario le plus probable?
Oh, je ne suis pas un devin. Je peux dire tout simplement que ni l'une ni l'autre proposition n'est pas ce qu'attend vraiment le peuple camerounais. Son fils, je lui avais donné un conseil d'une façon publique de se retirer de ses joutes. Parce que si jamais il acceptait et s'il devenait candidat, ce serait pour lui quelque chose de très très nocif et ce serait pour le Cameroun un autre échec qu'on ajouterait aux échecs précédents.
Alors, quelle est la solution pour vous?
Alors, j'ai proposé une solution, celle de la transition, c'est-à-dire que les forces vives de notre pays se retrouvent et créent ce que j'appelle une période de transition. Et cette transition aura comme mission principale, fondamentalement, remettre les institutions républicaines en place pour une refondation profonde. Ensuite, procéder à un audit comptable et non comptable de tous les secteurs du pays. Redéfinir le principe même de l'unité par la richesse des diversités, ce qui est un préalable évidemment pour mettre fin à la guerre et bien d'autres propositions qui feront l'objet de cette transition.
Et réformer le code électoral, j'imagine.
Tout à fait. C'est comme si on remettait tout à plat. C'est une période qui n'est pas une option, mais qui est devenue une priorité, qui est devenue un passage obligatoire.
Une transition de combien de temps?
Oh, 3, 4 ans, ça dépend, mais ce serait une période vraiment très, très intense pour que le pays puisse se retrouver et pour repartir à zéro.
Et une transition dirigée par qui?
Alors, pas nécessairement par les partis politiques. Bon, j'ai été touché pour diriger cette transition. Je leur ai dit, s'il en est ainsi, j'en prendrai la responsabilité, mais une fois terminé, je peux dire le job, je quitterai la scène politique.
Vous avez été touché, vous avez été contacté par des personnes qui sont actuellement dans le premier cercle du pouvoir?
Par certains du premier cercle du pouvoir, dont je ne peux pas révéler les noms, et dans la société civile, et beaucoup de partis aussi y adhèrent. C'est une idée qui fait son chemin, et aujourd'hui, on voit que c'est ce qui pourrait sortir notre pays de l'impasse.
Donc aujourd'hui, vous dites que vous êtes disponible pour diriger une éventuelle transition.
Tout à fait.
Est-ce que vous avez un modèle historique dans la tête?
Oui, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que, si vous vous rappelez bien, à un moment donné, pour les pays africains, il avait été suggéré les conférences nationales. C'en est pas une, parce que les conférences nationales s'étaient dictées de l'extérieur. Et là, ce serait quelque chose de particulier, parce que ça part des Camerounais eux-mêmes, et ce serait un moment opportun pour qu'ils prennent leur destin en main. Et puis, à côté de nous, il y a le Gabon.
Et vous pensez que la transition dirigée actuellement par le général Oligui Nguema au Gabon est un exemple qui peut être suivi au Cameroun?
Oui, il y a des choses très, très positives. Et c'est un pays qui est en Afrique centrale, qui a eu aussi une histoire à peu près analogue. Il y a beaucoup de choses dont on peut s'inspirer, certainement.
Donc vous n'êtes pas dans la même stratégie que l'opposant Maurice Kamto, qui lui veut directement une alternance à l'occasion des élections d'octobre 2025. Vous pensez qu'il faut passer d'abord par une transition, c'est ça?
Tout à fait, parce qu'une élection présidentielle en ce moment, dans ces conditions, c'est rebelote de l'arnaque. C'est-à-dire que je ne vois pas quel parti d'opposition peut gagner contre le système en place si on ne change rien. Je me demande même comment ils peuvent être aussi, peut-être c'est un terme fort, aussi naïfs aujourd'hui en pensant qu'en allant aux élections, il peut avoir l'alternance. Le Cameroun n'a pas besoin en ce moment d'alternance, il a besoin d'un changement profond, d'où la transition. C'est-à-dire que cette transition prépare une alternance éventuelle dans les années à venir après avoir assaini le contexte politique. Donc je suis absolument à l'opposé de ce que peut penser M. Maurice Kamto.
Oui, mais regardez au Gabon, le général Oligui Nguema, il n'exclut pas de rester au pouvoir après la transition. Qu'en serait-il du futur chef de l'éventuelle transition camerounaise?
Oh, si c'est moi, je ne ferais pas ça. Je ne peux pas faire ça parce que ce serait une continuation de ce qui a causé tous ces déboires, tous ces dérapages de nos pays africains. C'est-à-dire, Il faudrait le respect des institutions. Il faudrait que nous, Africains, on comprenne qu'on ne devient pas président pour la jouissance, on devient président pour servir.
Donc, si vous étiez à la tête d'une transition, vous ne resteriez pas au pouvoir au-delà de cette transition.
Tout à fait, je le réitère avec véhémence.
Et vous qui avez bien connu le président Biya, que lui conseillez-vous aujourd'hui de terminer son mandat actuel et de tourner la page ensuite, ou bien de tourner la page plus tôt?
En Afrique, on ne donne pas les conseils aux aînés, mais je me permettrai de lui dire, Monsieur le Président, on souhaiterait que vous terminiez en beauté, de prendre toutes les dispositions pour que ce soit maintenant ou avant les élections de 2025, de définir les conditions pour passer la main et de pouvoir vous reposer enfin. Et en passant la main, vous connaissez très bien le pays, vous savez très bien qui peut le gérer. Après vous, si je pouvais me permettre qu'il prenne ce courage pour pouvoir faire un geste, peut-être pas le dernier, pour l'amour de son pays.
Professeur Titus Edzoa, merci.